RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Zora Bitan, Jean-Loup Bonamy et le créateur de contenu Sam Zira qui est venu passer les 3 heures avec les GG. La première heure est passée, elle est déjà disponible en podcast sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Que va-t-il se passer là dans les deux prochaines heures des GG? Tout à l'heure à 11h, un face aux grandes gueules avec Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise. Il pourra répondre à Raphaël Glucksmann. Il dit qu'à la prochaine présidentielle, ils vont plier la France Insoumise. Réponse de Manuel Bompard tout à l'heure.
Cet homme-là rêve tout debout.
La santé mentale au travail. Aujourd'hui, les jeunes sont particulièrement touchés. La santé mentale, est-ce que ça veut dire que nous sommes devenus trop fragiles aussi au travail, qu'à la moindre contrariété, on parle de santé mentale, on veut s'arrêter? Vous venez en discuter tout à l'heure avec nous. Mais justement, parlons politique, parlons de l'élection présidentielle et de la gauche. Est-ce que la gauche a des chances d'arriver au second tour?
Quoi la gauche? Mais qu'est-ce qu'elle a la gauche?
Ce sont les goguettes. Voilà, petit pépite qu'on est allé dénicher. Alors
beaucoup,
c'est vrai
talent.
Que quand on regarde le nombre de candidats potentiels, on se dit attention, risque pour la gauche de ne pas être au second tour.
Oui, à moins d'un an de la présidentielle de 2027, le Parisien, ce matin avec Ipsos, mesure l'état de l'opinion sur 8 hypothèses différentes de premier tour, parce qu'on ne sait pas encore précisément qui sera au final candidat. Mais en tout cas, sur les 8 hypothèses, Bardella ou Le Pen oscillent entre 31 et 36%. Donc ils sont largement devant les autres candidatures testées. Et ensuite, derrière Bardella ou Le Pen, c'est Édouard Philippe qui apparaît le mieux placé que notamment le jeune Attal, comme dirait Charles Consigny. Et alors du côté de la gauche, eh bien c'est Raphaël Glucksmann qui obtiendrait de 11 à 14% des voix, selon les configurations, alors que François Hollande, lui, n'arriverait pas à dépasser les 8%. Donc dans le match Glucksmann-Hollande, avantage Glucksmann. Jean-Luc Mélenchon, lui, peut être parfois devant Glucksmann ou derrière, ça dépend des configurations, mais quoi qu'il arrive, ni Glucksmann ni Mélenchon ne sont en capacité de se qualifier pour le deuxième tour. Ou alors il faudrait qu'il y ait tellement de candidats du bloc central que sur un malentendu, si j'ose dire, Jean-Luc Mélenchon pourrait se qualifier. Donc ça veut dire que la gauche va jouer les figurants.
Zora.
Bah en fait, le problème de la gauche, c'est qu'elle remonte pas. Elle remonte pas dans la crédibilité de l'opinion.
Dans le cœur des Français.
Dans le cœur des Français. C'est-à-dire que beaucoup l'ont fréquenté comme moi, l'ont aimé comme moi.
Il n'est plus de gauche, Zora.
Si. D'ailleurs, dans mon album, bientôt, il y a une très belle chanson pour elle.
Ça s'appelle Je suis de gauche.
Non.
Ou à la gauche.
Non, vous découvrirez.
Ou à la gauche.
Non, pas du tout. Non.
Parce alors, que tu n'es plus de cette gauche-là. Bah, alors.
Non, je suis plus de cette gauche-là. Et puis surtout, elle a toujours rien compris, quoi. C'est-à-dire qu'elle écoute, c'est-à-dire Terra Nova a acté de larguer les ouvriers et le peuple et la classe moyenne, et elle continue. Elle ne lui parle pas. Quand on écoute l'ensemble de la gauche, elle se parle à elle-même.
Tu mets tout le monde dans le même bain, Glucksmann,
oui,
Mélenchon,
oui,
c'est ce qui n'est pas les mêmes.
Ils n'ont pas, c'est-à-dire que ils peuvent être, j'allais dire, dire des choses intéressantes, mais ils n'ont plus d'audience, de crédibilité et de confiance dans la.
Bah, Mélenchon,
dans
il a une audience.
Mélenchon, oui, Mélenchon. Mais on parle de la gauche, pas de l'extrême gauche. Pour moi, Mélenchon, c'est l'extrême gauche. Je parle de la gauche social-démocrate.
Le gouvernement.
Le gouvernement. Et elle ne travaille toujours pas. Elle est toujours dans une espèce de centrifugeuse entre elles. Elle bosse pas. Quand on voit Hollande qui est candidat, non mais franchement, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'Hollande devrait être celui qui accompagne le ou la candidate de gauche. Mais lui aussi est candidat. Donc elle n'a pas renouvelé ses idées, elle n'a pas travaillé, elle n'a pas démontré qu'elle pouvait être une réponse et une vision pour le pays.
Mais je ne comprends pas là, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que ce que vous appelez là, terme un peu sibyllin, la gauche de gouvernement. Bon,
Celle qui a été au gouvernement.
Ah, celle qui a
quand
été
la gauche
au gouvernement.
Au pouvoir,
bah, oui. Jean-Luc Mélenchon a été ministre.
Oui,
il était ministre de Lionel Jospin.
Il était sous-ministre de Lionel Jospin.
Il était ministre de Lionel Jospin.
Le Parti Socialiste. Moi, le Parti Socialiste était le parti du gouvernement.
La gauche de, ce que vous appelez la gauche de gouvernement, mais moi je comprends pas très bien. Elle gouverne. Elle gouverne depuis 2017, même depuis 2012.
Ouais, Emmanuel Macron, c'est la gauche.
Emmanuel Macron, il a été membre du Parti Socialiste. Il a été proche de Monsieur Attali. Il a été secrétaire général adjoint de l'Élysée de François Hollande. Il a été ministre de l'économie de François Hollande.
Oui, mais enfin, on parle.
Il n'a que des prémices de droite, hein.
Gabriel Attal.
À part Borne et Attal, il a eu essentiellement.
Voilà, tu me dis, il a pas eu de premier ministre de droite, tu m'en sors deux.
Il a eu essentiellement des prémices de droite.
Borne, donc tu regardes Elisabeth Borne, Gabriel Attal, excuse-moi, il vient du Parti Socialiste, Gabriel Attal.
Attal, enfin voyons.
Non mais, excuse-moi, mais ce que t'appelles la gauche de gouvernement, c'est le macronisme.
Bah, non, ça s'appelle en même temps, un peu gauche et un peu droite.
Non, alors, pour reprendre la formule d'un homme politique décédé, c'est l'UMPS. C'est-à-dire que l'UMP et LPS, qui étaient tous les deux en train de s'effondrer, ont fusionné dans ce qu'on appelle le macronisme, ou le bloc central, et qu'aujourd'hui, ce que tu appelles la gauche de gouvernement, mélangé au centriste et à une sorte de centre-droite mou type jupéiste Édouard Philippe, eh ben c'est le macronisme. Donc c'est normal qu'il ne reste plus d'espace pour tes autres candidats qui en fait sont redondants par rapport à ça. Donc c'est ça que moi ça me paraît évident.
Donc, mais toi il y a qu'une seule gauche, c'est Mélenchon.
Et deuxièmement, si tu veux être à gauche, soit t'es macroniste, soit t'es chez Mélenchon. Et il y a pas d'espace entre les deux. Et Raphaël Glucksmann n'a pas du tout les qualités nécessaires pour plier le match à gauche. Il est en dehors du macronisme. Il y a pas d'espace entre le gouvernement et Mélenchon, et celui qui domine, celui qui écrase tout, c'est Mélenchon. Et il y a pas d'autre candidat à la gauche du macronisme que Mélenchon.
Raphaël Glucksmann qui sera face au GG jeudi.
Mm-hmm. Emmanuel Bompard qui sera avec nous tout à l'heure à 11h. Sam Zira, avant d'écouter Guillaume du côté des Pyrénées-Atlantiques au 32-16.
Eh ben, n'est disqualifié que celui qui a échoué. Il faut qu'on arrête de disqualifier les personnes qui ne sont pas encore allées jusqu'au bout de la course. Et puis l'histoire nous a montré de toute façon que les sondages, ça valait pas grand-chose. Non. Et que dans les sondages, il y a énormément de personnes aussi qui ne votent pas, qui s'expriment. Ce qui va compter, c'est les votes dans les urnes, tout simplement. Pour moi.
Donc prudence sur ces sondages.
Mais extrême prudence. Et je crois qu'il faut pas mettre toute la gauche dans le même panier. Il faut pas mélanger non plus les macronistes avec la gauche. Ils ont quand même des idées et des convictions qui sont complètement différentes.
Je vois pas la différence entre Raphaël Glucksmann et la plupart des gens qui sont au gouvernement. Voilà, une feuille de papier à cigarette.
Il y a beaucoup de socialistes quand moi j'y étais. Le 16 juillet 2016, j'étais au meeting de Macron à la Mutualité. Je connaissais pas du tout Macron. Je suis allée au meeting, j'ai écouté, j'étais habituée donc ça m'a pas, j'ai pas fait waouh, mais c'était bien. Et quand je suis montée au cocktail, la moitié de la salle était pleine de socialistes.
Ah oui.
Oui, c'est
une réalité, c'est-à-dire j'invente rien.
Quand j'ai vu ça,
notamment des
macronistes, voilà, beaucoup
UMPS,
de socialiens. Voilà, c'était ça, c'était le PS qui s'était racheté une veste pour pouvoir se faire réélire et beaucoup sont devenus députés avec l'étiquette En Marche.
Il y a qu'un seul, si on met Mélenchon qui justement, comme je disais,
Ferrand, tout ça,
c'était
les
Glucksmann n'a pas rejoint Macron.
Non, en dehors, oui, mais pour des, il aurait pu. Il y a qu'un seul, en dehors de Mélenchon, il y a qu'un seul homme politique à gauche, mais qui est tout seul, qui tient un discours intéressant, c'est Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, oui. Il est tout seul, il s'est retiré de la course, il n'est pas testé dans les sondages. Mais à part ça, parce qu'il parle de réindustrialisation,
d'ailleurs,
il parle de redressement productif, il parle de comment nous délivrer de la tutelle de l'Allemagne et des États-Unis. C'est ça les vrais sujets. Aujourd'hui, excuse-moi, mais la gauche aussi en matière économique, elle prend ses ordres à Berlin.
C'est amusant,
la soumission
c'est
de la France à l'Allemagne.
Arnaud Montebourg, depuis qu'il dirige les entreprises, est d'une droite. C'est amusant.
Mais oui, c'est ça. Et d'ailleurs, il se fait traiter de facho par la gauche.
Et c'est le seul à avoir un discours intéressant.
C'est pour ça que j'aime bien.
Il est excellent.
Guillaume qui veut intervenir dans les GG. Bonjour
Guillaume. Seul gars sérieux du...
bonjour à tous.
Et bonjour, bienvenue Guillaume des Pyrénées-Atlantiques. Donc, est-ce que la gauche a une chance d'arriver au second tour ou pas alors?
Mais bien sûr que non. C'est impossible. Il faut qu'ils arrêtent de retourner leur veste. On n'a jamais vu ça depuis des années. Vous avez un exemple qui est flagrant. C'est Hollande qui arrive au pouvoir. C'est le seul président de gauche qui a retiré une mesure de gauche faite par quelqu'un de droite qui permettait aux gens de gagner mieux leur vie. C'est-à-dire, bah, tout simplement, la détaxer les heures supplémentaires.
Ouais.
Il est arrivé au pouvoir, on a retiré du pouvoir d'achat. Exceptionnel.
Je crois même qu'après, il a un peu regretté cette mesure.
Et il a même retiré, Guillaume. Il a retiré une mesure.
C'est quand même fou. c'est quand même fou. Et derrière, on a eu Mitterrand qui a été au pouvoir pendant 14 ans et qui a, mais c'est à partir de là que la France tombe à plat. Je dis pas que la droite a bien fait mieux après, hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas mieux, hein. Mais derrière, c'est eux qui ont commencé à créer. On a mis les 35 heures. On a retiré du temps de travail. Enfin, on a retiré,
la défiscalisation des heures sup.
On a fait, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de bêtises. Ils ont aucun programme économique fiable. Et tant qu'ils s'empareront pas d'un sujet qui quand même touche les Français et tient aux Français, c'est-à-dire le contrôle de l'immigration et des frontières, ben ça marchera jamais. C'est impossible.
Vous voulez un candidat de gauche qui soit de droite, quoi, en fait, si je
mais non, mais l'immigration, c'est pas de droite, c'est comme la sécurité, c'est pour tout le monde. Mais oui, c'est pour tout le monde.
Au Danemark et en Suède.
Ça veut pas dire tout bloquer, ça veut juste dire qu'on contrôle.
Mieux gérer.
Vous avez mieux géré, tout simplement.
Mais oui, je suis d'accord, Guillaume.
Pour eux, c'est un sujet tabou. Mais c'est complètement délirant.
Et d'ailleurs, Hollande avait aussi supprimé une mesure qui marchait très bien, puisque mon fils en était témoin, c'était la menace de la suspension des allocations familiales pour l'absentéisme des élèves à l'école.
Oui, bah, il est enseignant, faudra.
Voilà, il est enseignant et il m'a dit.
Il m'a dit,
bah, c'est simple, hein, depuis cette mesure, j'ai pas d'absent. Et Hollande est arrivé, il l'a supprimée. Alors qu'elle était dissuasive, elle n'a jamais été mise en œuvre. C'était vraiment une menace et c'était super. Parce que les profs avaient. Donc suppression de la défiscalisation des heures sup, suppression.
Mais ça, c'est parce que celui qui arrive toujours défaire.
Oui, non, mais la France, ils s'en foutent. Donc ça veut dire qu'ils gouvernent pour eux et pas pour le pays.
Moi, je pense que, déjà, premier point.
Le grand problème, tant qu'ils ne gouverneront pas pour les Français.
Voilà, on est d'accord.
Ils continueront à gouverner pour un parti politique. Ou pour eux-mêmes, pour leur carrière, on n'y arrivera jamais.
Le problème du Parti Socialiste, c'est que ça fait quand même maintenant des années qu'il est dans l'opposition.
Oui.
Donc il aurait le temps de travailler, proposer de nouvelles mesures. Notamment pour les jeunes et les nouvelles générations, voilà, donner un peu d'espoir, etc. Les seules choses qu'ils font, et là j'ai vu encore qu'ils s'étaient rencontrés Olivier Faure, Maurice Vallaud, etc. C'est de voir comment on va faire une primaire.
C'est des apparatchiks,
mais qui sera pas vraiment une primaire. En fait, le PS est dirigé par des petits chefs, des apparatchiks, des gens qui étaient second couteau, qui se sont retrouvés en première ligne parce qu'il y avait plus personne. Et c'est pas avec Olivier Faure et Maurice Vallaud que vous allez imaginer la gauche du 21e siècle.
En fait, c'est l'ADN. Dans leur ADN, ils fonctionnent comme ça, dans les congrès où j'ai pu aller plein de fois, etc. En fait, c'est toujours des billards à trois bandes, des stratégies.
Exactement.
Pour que chacun récupère.
Ce que faisait très bien Hollande, d'ailleurs.
Voilà. Et ben, ils ont été habitués à ça.
Alors moi, je pense déjà que quand même, sur la gauche, il y a un sujet, c'est que beaucoup de gens de gauche, dont on a cité les noms, devraient être jugés en haute cour, voilà, pour haute trahison, non, et pour avoir saboté le nucléaire français, qui est une question absolument fondamentale. Voilà, des gens qui... pour rendre service à l'Allemagne et à l'industrie allemande, ont volontairement, Dominique Voynet par exemple l'a dit, que quand elle était ministre sous la gauche plurielle, elle avait volontairement saboté le nucléaire.
Elle est redevenue députée. Hein.
Voilà, et elle est redevenue députée. Donc ça, c'est quand même très grave. Il y a un problème sur le nucléaire où les intérêts stratégiques français vitaux ont été compromis. Et là, je pense que si on était un pays normalement constitué, eh ben, il faudrait tout ça des procès pour haute trahison. Et ce n'est pas une plaisanterie, ni une exagération. Et sur l'immigration, en effet, Zora a raison, c'est qu'au Danemark et en Suède, la gauche s'est emparée des sujets migratoires. Au Danemark, notamment, ça a fait reculer l'extrême droite, le fait que la gauche social-démocrate au gouvernement devienne très ferme sur l'immigration. Et en Suède aussi, le parti social-démocrate a fait son aggiornamento, sa mise à jour. Et par exemple, tu as une femme politique suédoise de gauche d'origine kurde qui s'appelle Lawen Redar, donc tu peux vraiment pas la taxer de racisme, et qui a pris des positions très fermes sur l'immigration. Voilà.
Mais c'est quand la gauche est dans le déni du réel, elle laisse la possibilité à d'autres de fabriquer leur propre réel. Et depuis des années sur la sécurité et l'immigration, la gauche et d'ailleurs chez LFI c'est encore pire, le sujet il est inabordable et personne veut poser le sujet. Moi je me souviens quand j'étais porte-parole de Manuel Valls à la primaire en 2011, on a plusieurs fois rédigé des tribunes et il a pris plusieurs fois des positions sur l'immigration et la sécurité, mais de manière très politique, pas du tout de manière haineuse. Mais ça a été un rejet total. Moi, j'étais l'extrême droite du PS. C'est dire où ils en étaient.
Aujourd'hui, t'as Karim Bouamran, qui paraît quand même un peu plus de valeur
Les réveils sont très tardifs et la remontada, elle est encore très loin.
Karim Bouamran, il gère quand même très bien Saint-Ouen. Il a des prises de position qui sont intéressantes, notamment sur la sécurité.
Oui.
Bouamran et Montebourg, c'est un peu le seul qui.
Je parlerai aussi de M. Delafosse, le maire de Montpellier.
Mais par exemple.
Michael Delafosse, par exemple, quand il s'agit de condamner les exactions, parce qu'il y en a eu dans sa ville samedi soir.
Oui, il y en a quelques-uns, bien sûr. Les mots durs.
Carole Delga, etc. Il y a quand même au Parti Socialiste des gens qui. Alors, c'est souvent des élus, ça, c'est intéressant, parce que Delafosse.
Ils connaissent le terrain.
Ils gèrent une ville.
Et qui ne sont pas les apparatchiks du parti.
Voilà, ce n'est pas les apparatchiks, mais Olivier Faure ne dirige pas une ville, Boris Ballot non plus. C'est des gens qui passent leur temps dans les couloirs. À essayer de négocier de
manière. Sam, puisque en tant que créateur de contenu, tu disais, moi, je m'ouvre un peu aux politiques. Est-ce que, je sais pas, parmi les personnalités politiques de gauche, tu sens qu'il y en a qui sont qui attirent un public, parlent aux jeunes, tu vois, qui ont une sensibilité. Tu dis, ah, lui, il est pas mal, etc. Est-ce que tu les repères? Est-ce que tu as un nom à nous donner ou pas, justement?
De façon générale, par rapport aux interviews que j'ai pu faire avec des responsables politiques de gauche, je me suis rendu compte qu'il y a plus de mesures. Il y a plus peut-être de notions d'équilibre. Il y a moins de punchline. Il y a moins de phrases extrêmement fortes qui vont faire le tour de tous les JT. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle.
Je sais pas, t'invites qui, mais.
Vas-y.
On veut les noms.
Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que c'est les phrases fortes qui sont des slogans et qui ne servent à rien?
Moi, je m'intéresse ni aux phrases fortes ni aux slogans.
Est-ce que c'est la pérennité ou est-ce que c'est l'équilibre de ses pensées? Et c'est, un petit peu comme une rivière qui aurait un petit peu moins de torrents. Moi, je pense qu'il faut pas les discréditer. Il faut pas les voir, comme ayant déjà perdu avant qu'on soit arrivé au bout de la course.
Ils ont pas savoir besoin. Qui parle aux jeunes.
Ouais.
Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon.
Exactement, voilà qui c'est parle ce que aux j'allais jeunes. Dire.
Bardella et Mélenchon. Ouais.
On vote pas sur TikTok. On vote pas sur TikTok.
Ah mais les urnes,
c'est là où il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites aujourd'hui. Pardon, mais à chaque fois, à chaque élection présidentielle, on a toujours eu les mêmes débats, il y a toujours eu les mêmes discussions et il s'est toujours passé la même chose.
Est-ce qu'ils votent ces jeunes? C'est ça la question, quoi. Dans l'échange que tu as avec eux, est-ce que tu les sens motivés aller voter ou pas, quoi. Ils sont abstinents.
Alors, de façon générale,
abstentionnistes. Aussi, il paraît que les jeunes font moins l'amour, mais c'est vrai aussi. Débat. Ouais. C'est un autre débat.
De façon générale, il y a un manque de confiance. Quand même chez la jeune génération. C'est pas comment dire. C'est aussi sur les réseaux sociaux qui s'informent et c'est aussi sur les réseaux sociaux qui a leur levier au travers d'une.
TikTok, à part un slogan, tu peux pas développer.
Non, c'est pas vrai. Bien sûr. C'est pas vrai. Sur TikTok, il y a la possibilité de regarder des vidéos en 3 minutes. On peut faire passer des idées. Et pardon, mais la plus jeune génération et même les millennials, c'est souvent au travers d'un extrait vidéo d'un responsable politique avec une émotion forte ou une contradiction forte
qui t'attrape, en fait.
Exactement, et qui va faire après aussi que l'algorithme va proposer d'autres idées, d'autres opinions de responsables politiques.
Non, mais
l'algorithme, on le façonne, hein.
Oui, mais Sam, là, ce qui est intéressant, c'est de, tu dis, la gauche, elle peut donner envie, elle développe des pensées.
Donc, elle est plus dans l'équilibre, moins dans la punchline.
Il faudrait que le peuple le sache, parce qu'il le sait pas pour l'instant.
Mais le peuple aime tout ce qui est polarisé.
On a posé la question.
Non plus. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sortent du lot, c'est Bardella et Mélenchon.
Bah oui.
Et c'est quand même les offres les plus radicales.
La gauche est-elle disqualifiée pour le second tour, déjà, ou pas? À cause de la multiplicité de candidatures.
Ah ben vous dites
oui à 87%. On reviendra sur le débat tout à l'heure avec Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, puisqu'il sera en studio avec nous à partir de 11h. Dans un instant, on va regarder le monde de l'entreprise. Et à propos des jeunes, notamment un salarié sur deux aujourd'hui est ce qu'on appelle en détresse psychologique. Il ne se sent pas bien au travail, et ce sont les moins de 30 ans qui sont les plus touchés. Est-ce que ça veut dire que les moins de 30 ans, c'est pas une génération solide au boulot? Est-ce qu'ils sont vraiment trop fragiles? Il est 10h20, vous venez en discuter avec nous au 32-16, avec Sam Zira, avec Jean-Loup Bonamy et avec Zora Bitton. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules avec aujourd'hui Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, Sam Zira qui est avec nous, créateur de contenu, l'animateur sur les réseaux sociaux avec plus de 6 millions d'abonnés. Sam qui vient discuter, bavarder, débattre avec les grandes gueules depuis 9h ce matin jusqu'à midi.
Ça se passe bien, Sam?
Zora Bitan nous accompagne. Mais je lui demandais justement s'il avait déjà posté des choses ou pas. Ou s'il était en train. Alors là, il vient d'envoyer un sondage.
Ouais,
justement à sa communauté, Sam.
C'est quoi comme sondage?
Sur notre sujet de discussion qui va arriver.
Eh ben, tout à fait. J'ai envie de leur poser la question. Un salarié sur deux en détresse psychologique. Les moins de 30 ans sont particulièrement touchés. Est-ce que c'est une génération de fragiles? Vous me posez la question. Je vais leur poser. Je pourrais vous remonter leur réponse
en direct. C'est pas mal. Allez, justement, la discussion est lancée. On y va. Intéressante cette étude que dévoilait RMC aujourd'hui sur la manière dont on perçoit et dont on vit son travail. Et aujourd'hui, ce qui remonte le plus dans les études, c'est la perte de sens de son travail.
Oui, c'est un baromètre empreinte humaine Ipsos BVA qui a été révélé ce matin en exclusivité par la rédaction d'RMC qui montre que la détresse psychologique gagne beaucoup de salariés et notamment des jeunes de moins de 30 ans. Et pour expliquer cette détresse psychologique, on parle d'un manque de sens au travail, la pression des délais, le sentiment d'être simplement de simples exécutants qui poussent donc beaucoup d'actifs, parfois vers le burn-out, vers des arrêts maladie. On l'avait déjà d'ailleurs parlé dans les grandes gueules, il y a une explosion des arrêts maladie pour cause de santé mentale chez les moins de 30 ans. Alors bon, on est quand même un peu étonné parce que les moins de 30 ans, ça fait pas très longtemps qu'ils bossent, étant donné qu'on commence de plus en plus tard sa vie active. Hein. On rentre de plus en plus tard dans le marché du travail, donc à moins de 30 ans, il a bossé quelques années, guère plus. Et il est déjà en détresse psychologique. Est-ce qu'on est face à une génération de fragiles?
32-16 pour le dire au GG, le dire aux grandes gueules. Zora?
Alors, il faut replacer le contenu de l'étude. Et c'est ça qui est intéressant. En fait, ils ne se plaignent pas de travailler. Ils sont pas feignants, ils bossent, il n'y a pas de souci. De quoi ils se plaignent? Ils se plaignent du management, du peu de considération qu'on a à leur créativité et d'être souvent de simples exécutants. Et en fait, ce que je lis, c'est que ce sont des jeunes qui travaillent, mais qui ont envie de s'investir, d'être consultés, de créer, de progresser en même temps. C'est-à-dire qu'ils veulent pas qu'on utilise ce qu'ils savent faire et point. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre que c'est des jeunes qui ont vraiment envie d'aller au-delà et d'aller.
Oui, mais de là tomber en détresse psychologique, c'est pas aller au-delà.
Alors,
ça, c'est
alors
au contraire,
je continue. Ça veut dire ça veut dire qu'ils se sentent souvent inutiles, qu'ils se sentent pas utilisés entre guillemets dans le cadre professionnel pour ce à quoi ils aspirent, et que c'est ça du coup qui leur fait perdre un petit peu confiance et qui les met parfois alors de là jusqu'en burn-out, c'est peut-être un peu exagéré, mais quel sens j'ai dans cette entreprise si je suis là que pour faire le tableau PowerPoint, etc.
Peux te motiver à avoir mieux plutôt que te mettre en
arrêt
maladie.
Oui, mais il y en a qui réussissent, d'autres non. Je veux dire, chaque jeune est différent, chaque personne
mais
est différente.
Pourquoi il y en a plus dans cette génération qu'avant?
Ben parce que peut-être que les entreprises ont un management aussi différent. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas du tout la même place que celle que nous avions, nous. Mais en tout cas, on note qu'ils travaillent. C'est pas une question de feignantise et c'est pas
une question de fragilité.
Oui, ben peut-être.
Moi, je me méfie toujours de ce type de discours. Génération de fragiles, taper sur les jeunes.
Ben oui.
En permanence, non, c'est pas une génération de fragiles. C'est juste que c'est une génération qui partage beaucoup plus, qui se compare beaucoup plus, qui est beaucoup plus jugée, qui voit beaucoup plus aussi ce qui se passe ailleurs et donc qui exprime et qui parle beaucoup plus. Moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce que les anciens, justement, étaient dans le silence et souffraient en silence.
Mais oui,
aujourd'hui, on nous parle de libération de la parole, on nous dit qu'il faut mettre des mots sur nos mots, M-A-U-X, et au final, c'est ce qu'ils font les jeunes. Après, il y a aussi une histoire de responsabilité personnelle et de choix personnel. Je crois qu'il y a beaucoup aussi de métiers qui ne sont pas assez valorisés, qui ne sont pas assez bien rémunéré. Et quand on fait pas forcément un métier passion, eh bien, je pense qu'on peut être plus amené à être enclin à pas être dans le bonheur, à être malheureux. Et quand on est face à une génération qui n'est pas heureuse, ben qu'est-ce qui se passe?
Et ben c'est un pays qui est malheureux.
Ben ouais, on est en état dépressif, on n'a pas envie de se lever, on voit tout en noir et on essaie de trouver la responsabilité ouais, aussi sur d'autres.
Est-ce que c'est pas aussi une génération qui a du mal à gérer ses frustrations? Parce que c'est aussi une génération qui veut tout de suite.
Il y a un peu des deux.
Effectivement, quand tu démarres dans le boulot, en général, tu fais pas tout de suite ce que tu avais imaginé,
bien sûr,
projeté de faire.
Tu lances pas par PDG.
Parfois, il faut attendre, parfois, il faut être patient, etc. C'est long, une carrière. Est-ce que justement, c'est pas la gestion de la frustration qui est en cause?
Oui, mais tout ça,
gérer ses frustrations.
Mais tout ça, c'est exacerbé par les réseaux sociaux.
Oui.
Les réseaux, c'est tout de suite, maintenant.
Et aujourd'hui, dans le travail, c'est pas tout de suite.
Ouais, mais oui, tout à fait. Mais moi aussi, je vois, il y a plein de travail. Je connais des personnes qui sont passionnées, qui travaillent en banque, par exemple. Mais vous savez combien ils sont payés en banque? Être conseiller bancaire, c'est extrêmement mal payé. Pourtant, on a besoin aujourd'hui.
Ça va bientôt disparaître comme métier.
Ouais, perso, j'ai pas envie d'aller sur une banque en ligne. Moi, j'ai encore envie de garder le côté humain et j'ai encore envie d'avoir en face de moi quelqu'un qui me connaît et qui potentiellement va m'apporter des conseils qui correspondent aussi à
mon
historique.
Non, mais dans ce que tu dis, il y a les deux. Il y a une génération qui ne parlait pas et qui souffrait en silence. Et puis aujourd'hui, il y a une génération, comme dit Olivier, qui ne supporte plus rien. Et en fait, il y a, c'est pas parce que les autres n'ont pas parlé que ceux qui parlent. Voilà, que ceux qui parlent, faut pas les entendre non plus. Et c'est vrai qu'il faut apprendre le temps long. Et vous êtes dans une génération, on n'est plus dans le temps long. Nous, on était dans le temps long.
Alors, la question. Est-ce que c'est la faute du travail ou est-ce que c'est la faute des jeunes qui sont une génération de fragiles? Réponse, les deux, mon capitaine. En fait, il y a bien un problème objectif du côté des évolutions du travail. Ça a très bien été analysé par un sociologue qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff. C'est ce qu'il appelle la barbarie douce, avec une idéologie managériale qui donne des injonctions contradictoires, qui parle une langue que personne ne comprend, qui est déconnectée du sens commun et de la réalité concrète, une sorte de langage chewing-gum. Et donc, aujourd'hui, et c'est très très net en France, notamment parce qu'on c'est un pays qui s'est beaucoup désindustrialisé, il y a une multiplication des bullshit jobs, et ben les gens n'arrivent, et notamment les jeunes, n'arrivent plus à trouver du sens dans leur travail, parce que la destruction du sens a méthodiquement été mise en place par les managers. Donc c'est vrai que tu as des métiers où clairement il y a un manque de sens, et où il y a un management qui ne va pas du tout. Voilà, donc ça, c'est la première raison. Et du côté des jeunes, ben en fait, parallèlement à ce management qui s'est mis en place, eh bien, à ce nouveau style de management qui s'est mis en place, t'as toute la diffusion de la culture psy, l'obsession de la santé mentale, et qui, en fait...
Les anglo-saxons, ça vient...
Voilà, et en fait, la diffusion de la culture psy, je suis désolé de le dire, mais rend les gens malheureux. En fait, un effet contre-productif. À tout le temps parler de santé mentale, qui est un sujet tout à fait important et respectable en soi, mais à tout le temps en parler, tu rends les gens malades. C'est ça l'énorme paradoxe. Puis là, quand même, excuse-moi, moi, à titre personnel... Ma grand-mère, elle a commencé à travailler à l'usine à l'âge de 11 ans. Elle a travaillé 55 ans de sa vie à régler des montres dans une usine d'horlogerie. Elle travaillait plus de 40 heures par semaine. Elle a eu 3 enfants. Elle a connu une guerre. Son mari était dans la résistance. Tu lui aurais parlé de burn-out et de rester au lit parce qu'elle se sentait déprimée. Elle aurait trouvé ça un peu bizarre. Et surtout, elle t'aurait dit qu'un pays qui fonctionne comme ça ne va pas aller très loin. Voilà, qu'un pays, au Vietnam, ça se passe pas comme
ça. Oui, mais il y a une réalité qu'on peut pas non plus nier. La question de la santé mentale au travail, elle est arrivée avec un certain nombre de suicides au travail. Qui avait fait toutes les chroniques.
France Télécom.
Voilà.
France Télécom.
Et donc, évidemment, pour des raisons évidentes, on avait, encourager les entreprises à mettre en place des dispositifs de prévention de santé et de sécurité au travail. Parce que la réalité, elle était que personne ne parlait.
Il y a trop de normes aussi.
Oui, puis personne ne parlait. T'étais harcelé au travail, tu parles pas, tout le monde souffrait en silence. On a connu aussi cette époque.
Le problème des jeunes, je m'inclus dedans, c'est qu'ils ont pas eu une vie assez dure, en fait.
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça, quand même.
Ouais, ils n'ont pas eu une vie assez dure comparée aux générations précédentes.
Ah, mais c'est sûr que nous, on a eu un temps long. Nous, moi, personnellement, là, j'ai connu la souffrance au travail. J'ai jamais parlé.
C'est bien de parler parce que c'est pas normal de souffrir, mais néanmoins, il y a quand même un problème de la gestion de la frustration, mais aussi.
L'arrêt maladie n'est pas la solution à ta souffrance.
Il y a aussi l'horizontalité qui s'est imposée partout.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autorité est contestée partout. D'ailleurs, on a remis en cause cette autorité.
l'autorité du prof, l'autorité des parents, l'autorité du policier.
Les
du
gens médecin, se sentent harcelés dès qu'on l'a, dès qu'un supérieur leur donne un ordre.
Aujourd'hui, manager une entreprise, c'est très compliqué parce qu'effectivement, dès que tu commences à dire, bah non, ce que tu as fait n'est pas bien, la personne va dire, oh là là,
violence psychologique.
Il vient de m'attaquer personnellement et donc je suis victime de harcèlement. Je suis dans une détresse. C'est vraiment interroger manager aujourd'hui, oui, c'est très compliqué.
Oui, mais il faut toujours un équilibre.
La verticalité, c'est
oui, plus mais il faut toujours un équilibre pour ne pas nier la souffrance au travail.
Des petits chefs pendant trop longtemps.
Voilà,
mais
Avant, il y avait quelque chose qui s'appelait les syndicats, où il y avait une gestion collective et sociale des problèmes professionnels. On a abandonné cette vision-là, ça a été remplacé par une vision individualiste et psychologisante, où tu viens me parler de ta souffrance en tête-à-tête, et ben voilà le résultat. C'est peut-être mieux la gestion du syndicalisme à l'ancienne.
On va prendre deux témoignages dans un instant, celui d'Erwan, il a 27 ans, il est chaudronnier, et puis on aura Samy, il a 37 ans, il est en reconversion professionnelle. On sera du côté de Lyon, on sera du côté du Var. Est-ce que aujourd'hui, il y a une vraie détresse des jeunes au travail? Est-ce qu'on a une génération qui est beaucoup plus fragile que les précédentes? 32-16 pour en discuter avec les GG. Il est 11h25. Sam Zira, Zora Bitan, Jean-Loup Bonamy. Voilà le trio de Grande Gueule.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC et RMC Story, les Grandes Gueules avec aujourd'hui Sam Zira, Jean-Loup Bonamy, Zora Bitan. On parle des conditions de travail. Un salarié sur deux qui est en détresse psychologique aujourd'hui, les moins de 30 ans particulièrement touchés. Est-ce qu'on a affaire à une génération de fragiles? On va en parler avec Erwan qui nous appelle donc de Pierre-Bénite. On est du côté de la grande métropole lyonnaise. Bonjour Erwan.
Oui, bonjour. Bonjour,
bonjour Erwan.
Génération fragile ou pas?
Bah ouais, moi je trouve quand même, faut savoir que je suis de 98, hein, j'ai 27 ans, donc je fais partie de cette génération. Pour le contexte, moi j'ai été intérimaire ou employé pendant des années, et bah justement le contexte de travailler avec des gens pas très motivés, qui du coup je trouvais me desservait un peu à l'ensemble de ma génération, parce que du coup j'avais du mal à avoir accès à des responsabilités, des choses qui m'intéressaient dans le monde du travail. Et du coup, j'ai pris mes clics et mes claques, puis j'ai monté ma société parce que justement, je voulais pouvoir en faire plus. Et puis, je suis quelqu'un qui a besoin de bien bosser, d'être bien au travail, etc. Donc, j'ai fait le choix de partir dans mon coin. Le constat que j'ai fait, c'est que...
Et vous avez trouvé du monde qui partageait justement cette envie de faire plus, comme vous,
oui,
ou pas?
Oui, globalement, moi je suis ambassadeur pour la région Rhône-Alpes d'un réseau d'entreprises à l'échelle nationale, donc on est 90 TPE, PME dedans. Je peux facilement dire qu'il y a presque 50% des gens qui sont à peu près de mon âge, on va dire entre 25 et 35 ans. Justement parce qu'il y a une dynamique qui se met en place, c'est que les mecs qui sont compétents et qui ont envie de faire des choses intéressantes, diverses, variées, d'utiliser leur cerveau et leurs mains, ça devient compliqué, ou alors ça met vraiment des années à arriver. Donc moi je reprends un peu ce que Jean-Loup disait, c'est-à-dire que oui, d'un côté il y a un gros problème de management, on met souvent des gens qui n'ont aucune connaissance du terrain à des postes de direction, etc., qui fait que ça démotive beaucoup de gens, mais globalement, je trouve que ma génération est quand même très très susceptible, et globalement, il leur en faut pas grand-chose.
Bravo. Susceptible.
Non, mais
est-ce qu'aujourd'hui les jeunes je fais les jeunes, mais c'est une généralité, c'est vrai que c'est pas force, mais est-ce que effectivement il y a pas trop de jeunes susceptibles?
Mais Erwan dit quelque
qui
chose.
Qui supportent pas la contradiction
Il dit quelque chose d'intéressant et qui traverse tous les temps. C'est la volonté de chacun, en fait. C'est comment chacun, dans chaque époque, justement, on dépasse les phénomènes de nos époques. Alors, le management toxique, il n'est pas nouveau. Mais en même temps, regardez, il dit bien que lui, 50% des jeunes qui sont dans son entrepreneuriat sont volontaires, bosseurs, etc. Donc, ils saisissent, eux aussi, l'opportunité. C'est le courage, le travail, la volonté, la patience. Et ça, ça n'a pas de temps. C'est tout le temps. Et ça, c'est intéressant.
Erwan, on va écouter un autre témoignage, celui de Samy, qui est du côté du Var. Bonjour, Samy.
Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Vous avez 37 ans, vous avez commencé à bosser à l'âge de 19 ans. Vous êtes en reconversion aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une génération plus fragile aujourd'hui ou pas, alors?
Oui, largement. Moi, pour une petite anecdote, déjà, pour commencer, j'ai été responsable en déménagement. Et j'ai eu des mecs qui sont venus, même des bons gaillards, des bodybuildés, à midi, ils te disent ah, c'est bon, je m'en vais. Quand on prend la pause. Quand on prend la pause, je m'en vais. C'est bon, c'est fini. Il fait trop chaud, c'est trop lourd, c'est trop haut, c'est 4 étages, il n'y a pas d'ascenseur. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, c'est que ceux qui sont, parce que j'ai fait du commercial aussi, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des cursus scolaires au niveau après le bac, mais qui leur servent à rien en fait. Parce que après derrière, ils se retrouvent dans des
boulots. Mauvaise orientation.
Il y a peut-être des déceptions par rapport à ça aussi.
Ils n'ont pas envie. Moi là, je suis en reconversion. C'est pas parce que je veux plus faire de déménagement, parce que c'est mon métier prioritaire. C'est juste que je me suis fracassé 7 fois l'épaule, et que derrière, je me suis opéré 3 fois. Donc là, si je reprends le déménagement, c'est des risques. Ouais. Et j'ai pas envie de repasser encore 6 mois en arrêt de travail, un accident de travail, etc. Donc je me reconvertis dans la sécurité. Mais pour en revenir à ce sujet principal, je pense que les anciens, enfin surtout mon grand-père en particulier, il est plus là, paix à son âme, mais il m'a fait énormément de bien au niveau mental et en m'expliquant qu'en fait il y avait qu'avec le travail qu'on peut s'en sortir.
Mais c'est ça, Erwan, Emeric. C'est Samy, pardon. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. La façon dont on est soi-même, on a un mental d'acier, on est courageux, on est volontaire, on est patient, etc. C'est pas une question de génération et de temps.
C'est une génération qui veut pas tout miser sur le travail.
Oui. C'est une génération qui a tout de suite. Tout de suite.
Qui veut tout de suite.
Non, oui, c'est que. Et qui a tout de suite. Parce que moi, quand j'ai demandé ma première voiture, je suis allé bosser avec mon grand-père pendant 2 semaines et je me suis payé ma voiture. Là, maintenant, la voiture...
Aujourd'hui, il faut bosser un peu plus de 2 semaines.
Qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont la sensation, en fait, qu'on les éduque pour une vie qui n'existe plus. Et tu vois, c'est une de mes abonnées, ça qui me l'a dit, on nous éduque à une vie qui n'existe plus.
C'est-à-dire.
Il y a d'autres personnes dans ma communauté qui me disent, oui, mais on nous encourage également dans le système scolaire à faire des masters, des bacs plus, je sais pas combien. Et puis au final, on arrive, on a fait 5, 6, 7 ans d'études, le salaire ne suit pas. Aujourd'hui.
Il a raison, Sam.
Aujourd'hui, c'est important de se dire pourquoi je fais les choses, quel est le sens de ce que je fais. Donc, est-ce que ça doit passer aussi par la réforme de l'école, par tout un tas de réformes en termes d'éducation, est-ce que l'école correspond aujourd'hui aux aspirations de vie de cette génération?
Au marché de l'emploi aussi.
Oui, au marché de l'emploi.
L'école n'est pas faite pour répondre aux aspirations de vie de qui que ce soit.
Bien évidemment.
C'est le but de l'école, l'école n'est absolument pas là pour répondre aux aspirations de vie de
l'école. L'école est là pour t'emmerder.
Non, vous êtes dans la philosophie. Moi, c'était ma matière préférée.
Oui.
À l'époque,
mais je suis pas là pour répondre aux aspirations de vie.
C'est ce qui m'a permis de remettre en question énormément de vérités absolues, la philosophie. Donc, vous êtes bien placé, normalement, pour le savoir.
Oui, mais enfin, le rôle de l'école, c'est d'avoir, de faire une orientation en fonction des niveaux et des aspirations.
C'est aussi de former des esprits.
Voilà, de former des esprits, bien sûr.
Réfléchir par soi-même.
Mais après, la vraie question, c'est l'adéquation entre le marché et là où on oriente.
Mais ça va au-delà. Moi, je vais avoir une position impopulaire. Je trouve que nos jeunes font trop d'études. D'une manière générale, on a poussé à faire des masters, des master 2, etc. Et donc effectivement, c'est des années d'études. Et finalement, tu sors de ça pour être payé 1700 euros.
Il y a un découragement.
Tu te dis, finalement, j'ai fait un bac plus 5.
Alors qu'un plombier, il gagne 2500.
Je vais être dans un boulot qui me passionne pas au début pour gagner 1700 euros. Moi, je trouve qu'on a inventé un système, mais c'est très français. Il y a beaucoup de pays qui ne font pas comme ça. La culture du diplôme à tout prix, des diplômes qui sont pas
et
toujours
pour tous
passionnants et qui sont pas toujours très formateurs,
en fait
sont
tous
déconsidérés. Voilà. Et donc moi je pense qu'il faudrait revenir en arrière, c'est-à-dire que les jeunes commencent plutôt à travailler. D'ailleurs, ça résoudrait le problème des retraites.
Tout à fait.
Le problème c'est que comme on commence de plus en plus tard, on va pas pouvoir partir à 60 ans à la retraite.
On commence à 30 ans après un doctorat et on s'arrête à 55 grâce à Olivier Faure.
Il y a autre chose,
ça va pas pouvoir continuer.
Avant, c'est le travail qui t'aidait à changer ta vie. Aujourd'hui, c'est plus le travail qui a fait changer ta vie. Ce qui a fait changer ta vie, ou ce qui change ta vie, ou ce qui modifie ta vie, ce sont toutes les applis que tu as sur ton téléphone. Et finalement, aujourd'hui,
ça te remplit pas le frigo, quand même.
Ah non.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu travailles à minima ton loyer, t'arrives pas forcément à le payer. mais tu restes chez toi et ce sont des entrepreneurs privés ou autres qui ont changé ta vie avec des applications. Et aujourd'hui, le mythe de l'employé de boulot, de l'employé de bureau, où tu bosses pour modifier ta vie, bah, tu te rends compte que c'est plus tellement ça.
Ouais,
aujourd'hui, le travail
plus,
ne t'épanouit plus, le travail ne te permet plus forcément de t'élever socialement. C'est autre chose qui est arrivé aujourd'hui et qui te permet de réaliser
mais
ta vie.
Mais il y a des jeunes dans
ce sont des applications, ce sont des créateurs de contenu avec dans lesquels tu te retrouves, tu comprends? C'est plus le travail avant, tu devenais employé de bureau, tu avais tes collègues de bureau, tu payais ton loyer.
Tu restais 40 ans dans la même boîte.
Et tu restais 40 ans dans la même boîte
c'est
et tu réalisais
ça.
Ta vie comme ça. Aujourd'hui
c'est
tout
fini,
ça c'est terminé.
Mais oui, c'est
le
terminé.
Modèle a complètement changé. Donc tu dis mais pourquoi je m'emmerde? En fait à me tuer au boulot ou
et d'ailleurs c'est
si
un peu la théorie
de,
c'est
fais,
un peu
vois.
La théorie
ça,
des vers, travailler moins, le droit à la paresse, la façon dont on appréhende le travail a totalement été modifiée. Mais n'empêche qu'il y a
avec une grande contradiction chez les Verts parce que pourquoi
la
pas
retraite,
pas la décroissance? Mais en même temps, les Verts veulent encore plus de social.
Oui.
Sauf ce social, il se finance par ceux qui créent les richesses.
On a Aymeric qui a 24 ans, qui est du côté du Maine-et-Loire. Bonjour Aymeric, c'est-à-dire Angers. Bienvenue Aymeric.
Bonjour Aymeric.
Bonjour les GG.
Bonjour Aymeric. Génération de fragiles, vous en faites partie ou pas Aymeric? Alors dites-moi, vous qui êtes collaborateur d'élus.
Eh bien, absolument pas. En fait, je pense que la vraie difficulté, c'est beaucoup après le Covid. Je suis sorti d'études l'été dernier. J'ai un master. J'ai dû envoyer à minima 200 CV pour avoir deux réponses. Je me suis déplacé dans la moitié du Grand Ouest pour faire des entretiens auxquels j'ai jamais eu de réponse. On me dit avec un master ou équivalent, je peux être plutôt lié à la fonction publique. Je peux être catégorie A. Je dois chercher une catégorie B, voire C, pour avoir deux années d'expérience. Parce qu'on veut des jeunes qu'on 25 ans, mais 14 ans d'expérience. En fait, on se retrouve à s'obliger à réduire ce auquel on va travailler avec nos études. On n'a pas le choix de se dire, bon, bah, je vais être obligé de commencer par un SMIC et d'être serveur ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, l'employeur ne veut pas de moi et je n'ai pas la possibilité d'avoir de l'expérience. Je trouve qu'il y a une contradiction là-dedans qui est assez difficile à vivre en tant que jeune,
c'est vrai.
Avec mes études et en fait, je sors. Personne ne veut de moi parce qu'ils veulent tous de l'expérience, mais personne ne veut m'en donner.
Et peut-être qu'il faudrait faire moins d'études, plus d'expérience professionnelle, parce que sincèrement, on apprend son métier en le pratiquant.
C'est le principe de l'alternance et de l'apprentissage.
Aymeric, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le management est adapté à notre société ou pas?
Je ne suis pas certain. Je pense que c'est aussi comme ça. Les managers, aujourd'hui, ont 40 ans. Ils sont nés dans leur société, ils ont évolué dans leur société à leur époque. Donc forcément, les sociétés changent, donc on n'arrive pas du tout au même niveau. Mais je pense que le problème avec les études, moi je m'en suis rendu compte, c'est pour l'arrivée en master, ils nous demandaient tous d'avoir fait 14 stages. Sauf qu'à aucun moment, du collège au lycée et même en licence, on nous dit « faites des stages ».
Mais oui, c'est la déconnexion entre les études et la réalité. C'est pour ça qu'il fallait renforcer à la fois l'apprentissage pour ceux qui avaient envie de faire des métiers manuels, et Dieu sait s'il y a beaucoup de jeunes qui veulent en faire, et puis mettre le paquet sur l'alternance.
Et vous êtes heureux dans votre boulot aujourd'hui, Aymeric, en tant que collaborateur d'élu? C'est ce que vous vouliez faire? Vous accomplissez dedans ou pas?
Ah, clairement, je l'ai découvert je l'ai découvert pendant ma licence. Je me suis dit, c'est le métier que j'ai envie de faire. Aujourd'hui, j'ai la chance de le faire. Et je suis hyper heureux. Je sais que c'est le métier que j'aime et je sais que c'est le métier que je vais faire pendant 15 ans, 20 ans, quoi.
Vous êtes collaborateur de Christophe Béchu ou?
Non, je suis au conseil régional.
D'accord, ok. Pour vous, l'évolution, c'est quoi? Devenir collaborateur de ministre?
Venir vous présenter vous-même?
Dites-moi.
Mon ambition serait plutôt d'aller au niveau des mairies, d'être directeur de cabinet dans des mairies. Parce qu'à mon sens, il y a un peu plus de concret qu'à la région, où c'est un peu plus loin du terrain. Pourquoi pas être élu dans 20 ans? Pourquoi pas? Ce sont des idées, mais c'est encore un peu loin.
Merci d'avoir témoigné, Aymeric. Merci d'avoir été avec nous. T'as des réactions encore là ou pas?
Ouais, il y a pas mal de réactions. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a beaucoup aussi de la jeune génération qui font des études pour faire des études, parce qu'ils savent pas véritablement quoi faire, parce que ça n'a pas été décelé.
Pour retarder leur entrée sur le marché du chômage.
Et c'est parfois aussi pour faire plaisir aux parents. Moi, dans la réalité du terrain, je le vois. Quand je suis amené, par exemple, à recruter des stagiaires et que la première question que je pose, c'est quel est le format, le concept que tu préfères sur mes réseaux et sur ma chaîne, les interviews, Oui, d'accord. Ça, c'est le fond. Mais quel est le nom du format? Et que la personne en face n'est pas capable de donner le nom, ça montre un désintérêt. Et ouais, ça, c'est quand même une grande partie.
Merci à tous d'avoir téléphoné, d'avoir été avec nous au 32-16 ensemble. Sans la politique, avec Manuel Bompard, le coordinateur national de la France Insoumise.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.